Kiosque Magazine.
Bonjour tout le monde, et oui, le Kiosque Magazine du 20 avril est commencé, saviez-vous ça, Serge?
Ah oui, je pensais que oui, c'était commencé, oui.
Alors nous sommes là tous deux, Serge Hamelin et Roger Roy, comme votre animateur pour l'heure qui s'en vient, et celui qui va nous diriger en régie, c'est Jean-Sébastien Laliberté, toujours fidèle au poste. Mm-hmm. Alors nous avons, comme à l'accoutumée, préparé des textes, nous avons lu, nous avons feuilleté certains magazines, nous avons trouvé des textes qui, nous pensions, pourraient vous intéresser, Serge.
Oui, moi j'ai parlé de religion. Tribunal, je vais parler du système qui rend fou et puis je vais parler de Noël. Oh mon Dieu, Noël au pays de Bachar. Hein? Mmh. Mais il fait plus chaud là-bas.
C'est quel Bachar?
En Syrie.
Pour ma part, je vais vous parler d'une illusion, l'illusion démographique. Je vais vous parler d'une cimenterie. Hey, la belle cimenterie de Port Daniel en Gaspésie.
Des Hells Angels.
Ah bon? Ah,
oui. Alors bienvenue.
Ça va nous intéresser, je pense.
Oui.
S'agit-il? Mmh. Le collectif Anonymous.
Ah bon?
Est un groupe contestataire qui est relativement jeune. Le groupe est surtout actif sur le web, sur la toile sur Internet. Les membres qu'on appelle les Anon, A-N-O-N, avec un S, ou les Anon, c'est mieux Anon, je pense, demeurent anonymes. En se cachant le visage derrière un masque caractéristique, le masque est inspiré de la bande dessinée V pour Vendetta. Et représente un homme au sourire que je qualifierais de moqueur et niais, orné ce visage d'épais sourcils et de minces moustaches et barbichettes. Anonymous est une organisation connue depuis 2008 pour ses attaques en ligne contre de nombreuses institutions, dont l'Église de Scientologie et le gouvernement tunisien. Deux jours après l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier, Anonymous jurait dans une vidéo de laver l'honneur des victimes en combattant l'obscurantisme et le mysticisme. Voué à la défense de la liberté d'expression, sa réplique à l'idéologie islamiste a mené à la fermeture d'environ 2000 comptes Twitter appartenant à des sympathisants de l'EI, l'État islamique, du moins selon le dénombrement officiel de ses opérations. Martine Rioux, de l'actualité, a rencontré Gabriella Coleman, qui a beaucoup étudié le collectif Anonymous. On peut lire un compte-rendu de l'entrevue qu'elle a menée auprès de Mme Gabriella Coleman dans l'actualité du 15 avril. Avant de vous lire l'essentiel de l'entrevue, précisons que Gabriella Coleman est une anthropologue américaine qui a passé près de 7 ans à infiltrer Anonymous, interagissant pendant de longues heures avec ses membres sur Internet afin d'en comprendre les motivations. Elle est professeure à l'Université McGill et elle est reconnue comme l'un des rares spécialistes du collectif, particulièrement depuis la publication d'un livre à ce sujet. Étant donné qu'ils sévissent incognito sur le web, les anons, tels qu'ils se présentent dans les médias sociaux, sont souvent perçus comme des pirates informatiques. Mais ils revêtent de nombreux autres masques, explique-t-elle, dont celui de lanceur d'alerte à la manière d'un Edward Snowden qui a révélé des détails de programmes de surveillance de masse. Depuis peu, Gabriella Coleman remarque une certaine sensibilité sociale et politique dans les actions de l'insaisissable mouvement. La guerre du web qu'il livre actuellement aux djihadistes cristallise à ses yeux la mutation du groupe vers l'activisme et la politique. En quoi le mouvement Anonymous se transforme-t-il? Ce collectif est passé des publications de trolls, ce sont des messages provocateurs visant à déclencher une polémique, là, et des activités de piratage à un rôle plus près de l'engagement politique. De temps à autre, des sympathisants vont encore utiliser des pratiques illégales, mais généralement, le but est moins de nuire à une organisation, par exemple, que de veiller à l'intérêt public. Quand cette métamorphose est-elle apparue concrètement? L'arrestation de certaines figures influentes d'Anonymous en 2011 et 2012, lui a fait perdre des plumes. Le groupe s'est presque fait oublier en 2013 et dans la première moitié de 2014. « Je pensais, dit Gabriella, que c'en était fini. Puis la mort de Michael Brown, c'est le jeune noir tué par un policier blanc en août dernier à Ferguson, aux États-Unis, a provoqué une série de nouvelles interventions. Depuis, l'opération qui consistait à exposer l'identité de cyberphédophiles en s'introduisant dans des sites clandestins de partage d'informations à caractère pédophile, ainsi que la riposte aux attentats de Paris, lui ont fait prendre du galon. Les opérations actuelles sont un peu plus dispersées que celles d'il y a quelques années, mais Anonymous n'est pas mort. Et qui est Anonymous? Peut-être votre voisin, votre collègue, votre ami. Un des aspects intéressants à propos d'Anonymous est qu'il attire tant des geeks aux impressionnantes capacités informatiques que ceux qui en sont totalement dépourvus. Leur nombre est impossible à préciser. Disons que le cœur du mouvement regroupe quelques centaines de personnes dans le monde, des milliers de sympathisants, essentiellement sur Twitter. S'ajoute à cet ensemble qui évolue sans cesse. Chaque opération amène quelques centaines de sympathisants supplémentaires. Ce qu'on sait, par contre, c'est que de nombreux Anons ont de bons emplois et vivent confortablement, contrairement à l'image souvent véhiculée par les médias, celle du pirate informatique terré dans son sous-sol. Il s'agit rarement de gens vivant en marge de la société. Alors, pourquoi Anonymous déclare-t-il la guerre aux djihadistes? Les djihadistes, et particulièrement le groupe armé État islamique, représentent une cible naturelle pour Anonymous. Les attentats de Paris ont été perçus comme une attaque à la liberté d'expression, un symbole cher à ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient les attaques. De quelle façon les Anons interviennent-ils contre l'État islamique? Ils multiplient les attaques par déni de service contre des sites liés à l'État islamique. Ils dénoncent aussi les comptes Twitter diffusant la propagande djihadiste afin que le réseau les suspende. De nombreux Anons consacrent beaucoup de temps à la surveillance d'Internet. Anonymous n'éradiquera pas l'État islamique. Mais vu l'importance du Web dans les opérations de l'État islamique, un affaiblissement même temporaire de ses activités en ligne peut avoir un effet. Par ailleurs, la stratégie se déploie à long terme. Chaque opération du genre permet de recruter de nouveaux sympathisants, dont certains deviendront des activistes d'Anonymous. Alors, c'est un mouvement assez... Évidemment, ce sont des gens anonymes. On ne les connaît pas. On ne connaît que par leur visage. Et ils font quand même un travail qui, à ce moment-ci, se transforme en attaque contre l'État islamique. Ils emmerdent les terroristes, donc, c'est le titre du texte, qu'on retrouve dans l'actualité du 15 avril.
Nous poursuivons dans ce même ordre d'idées un petit peu. On va parler de religion, des différentes religions au tribunal et non pas à l'Église. Les religions sont rendues au tribunal maintenant.
Ah bah bon?
Hein, oui. Bon, alors, dans la revue Actualité du mois de mai, Dominique Forget nous écrit certaines petites choses au sujet des religions au tribunal. À quoi ça sert de refuser un accommodement religieux? Si l'affaire va en cours, le requérant aura toujours gain de cause, entend-on souvent. Faux. Oh. La preuve par 5 jugements récents. La première preuve. Sauver un enfant. Depuis des années, les tribunaux canadiens donnent le feu vert aux autorités de santé pour procéder à des transfusions sanguines chez des mineurs contre l'avis de leurs parents témoins de Jéhovah. Deux jugements ont défini la jurisprudence, souligne Shauna Van Prague. En 1995, l'affaire concernait un bébé d'un an gravement anémique dont les parents à Toronto s'opposaient à ce qu'il reçoive une transfusion pour lui sauver la vie. C'est beau, hein? Mm. En 2009, il s'agissait d'une adolescente aux prises avec la maladie de Crohn. La jeune fille de 14 ans arguait qu'elle était assez mature pour prendre ses propres décisions et refuser la transfusion. Et dans les deux cas, les magistrats ont ordonné, et je dirais même ont ordonné, les transfusions. Ils ont reconnu que leur décision portait atteinte à la liberté de religion, mais affirmé qu'elle était justifiée compte tenu du caractère sacré de la protection des enfants.
Hein? Oui,
premier cas. Deuxième cas, les règles du divorce. En 2007, la Cour suprême a ordonné à un juif montréalais de verser 47 000 beaux dollars en dommages et intérêts à son ancienne épouse, à qui il refusait d'accorder le get, le divorce religieux juif, qui doit être consacré par un tribunal rabbinique. 10 ans auparavant, l'homme avait signé une convention civile de séparation dans laquelle il s'engageait à l'accorder, explique Louis-Philippe Lampron. Il ne s'est pas conformé. L'homme a fait valoir devant la cour que le forcer à payer des dommages et intérêts porterait atteinte à sa liberté de religion. Mais les juges n'ont pas cédé à cet argument. Et bien que la cour détienne l'autorité pour condamner une personne lorsqu'elle omet de se conformer à un contrat civil, elle ne pourrait pas, en revanche, forcer un homme à aller devant le tribunal rabbinique pour accorder le get. C'est marqué G-E-T. Alors, get ou jet, on ne sait plus. Il y a des choses qui relèvent de la cuisine interne des religions et dont la cour ne se mêle pas, signale Jean-François Gaudreau des Biens. Le fait, par exemple, que les femmes ne puissent pas devenir prêtres dans la religion catholique, alors que cela est à première vue contraire au droit à l'égalité garanti par la Charte des droits et libertés. Mm-hmm. Numéro 3. Pas de photo, pas de permis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, une communauté huthérite des environs de Lethbridge, en Alberta, a été déboutée par la Cour suprême du Canada en 2009. Elle tentait de faire invalider une loi provinciale qui forçait ses membres à se faire photographier pour obtenir un permis de conduire. Les adeptes du huthérisme, un mouvement chrétien, croient qu'il est péché de se faire photographier. Cela violerait le deuxième commandement de la Bible, qui condamne l'idolâtrie.
Ah oui?
C'est sérieux, hein? Alors, le jugement de la Cour suprême était serré. 4 juges contre 3, rappelle Jean-François Gaudreau, des biens. Au final, la Cour a fait valoir que la lutte contre le vol d'identité devait primer. 4 juges contre 3 quand même, hein? 4. Bas les armes. Mohammed, Moumin, Kawaha a perdu sa cause devant la Cour suprême du Canada en décembre 2012. L'homme d'Ottawa avait été arrêté 8 ans plus tôt à sa résidence en possession d'armes. Il avait été condamné à la prison à vie pour complot en vue de commettre des attentats en Grande-Bretagne. Kawaha a contesté sa peine, arguant que la définition d'une activité terroriste dans le Code criminel canadien, qui spécifie que ce type d'activité est motivé par des raisons politiques, religieuses ou idéologiques, violait la Charte canadienne des droits et libertés parce qu'elle aurait un effet paralysant sur l'expression des croyances et des opinions. La Cour a tranché. La violence ou la menace de violence ne peuvent être protégées par la Charte. Ouf, on échappait belle. Les dieux à l'école maintenant. Hein,
les dieux?
Les dieux, ben oui, les dieux. Deux parents d'élèves catholiques, pas le dieu, là, les dieux, les il y en a dieux, plusieurs. Oui, alors, deux parents d'élèves catholiques à Drummondville.
L'œil de Dieu.
Oui, bon, c'est ça. Alors, se sont battus pendant des années contre la commission scolaire des chaînes afin que leurs enfants soient exemptés du cours d'éthique et de culture religieuse. Ce cours a remplacé l'enseignement religieux traditionnel au secondaire en 2008. Il vise à exposer les élèves à diverses croyances. La demande d'exemption a été rejetée par la Cour suprême du Canada en 2012. Le cours de CR ont tranché. Les magistrats, à l'unanimité, ne constituent pas une violation sérieuse de la liberté de religion et de conscience. En 2014, le débat s'est poursuivi devant la Cour suprême à la demande du Collège catholique montréalais Loyola, qui désire offrir sa propre version du cours de CR. Le verdict est tombé le 19 mars dernier en faveur du Collège. C'est certes une victoire pour les requérants religieux, mais la portée du jugement est très restreinte, signale Jean-François Gaudreau des Biens. Ça ne concerne que les écoles confessionnelles et ce n'est pas un chèque en blanc pour faire ce qu'elles veulent avec le cours. Le Collège Loyola pourra enseigner la portion du cours d'ECR qui porte sur le catholicisme d'un point de vue catholique, mais il n'est pas exempté d'enseigner le reste du programme qui traite de l'éthique et des autres religions. Cette matière, les enseignants devront la transmettre d'un point de vue neutre sans laisser entendre que le catholicisme est supérieur. C'était donc dans la revue Actualité, les religions au tribunal.
Ma liberté,
Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
De retour avec un texte de Reader's Digest du mois d'avril.
Qui chantait?
Ah oui, c'est Isabelle Boulay.
Ah, me semblait aussi.
Oui, oui. Cette belle chanson de Serge Reggiani, n'est-ce pas? Oui. Composée par Moustaki. Pour Moustaki, oui, c'est ça.
Ah.
Oui, c'est ça. Vive le bavardage, Serge. C'est ce que nous venons de faire, non?
Un peu.
Oui, c'est ça. Mmh. En scénario connu, dans un ascenseur, une salle d'attente, à la banque ou en avion. Nous sommes entourés de gens qui, comme nous, ont les yeux rivés sur leur téléphone ou pis, ne savent comment rompre un silence embarrassant. À qui la faute? Il se peut que nous ayons perdu un peu de notre aptitude à converser. Nous n'engageons pas la conversation parce que l'exercice nous semble intimidant ou difficile, ou encore que nous n'y trouvons pas de plaisir ou d'utilité. Or, la prochaine fois que vous vous trouverez au milieu d'inconnus, rappelez-vous que le bavardage n'est pas une perte de temps. Selon les spécialistes, c'est un rituel social qui procure d'importants avantages tant sur le plan personnel que professionnel. Dire que le bavardage est futile, c'est oublier que les relations profondes n'auraient jamais vu le jour sans une conversation légère. Il facilite les interactions sociales, soutient Bernardo Carducci, directeur de l'Institut de recherche sur la timidité. Il y a des sortes d'instituts de recherche. L'Institut de recherche sur la timidité.
Il n'y plus.
De l'Université Southeast en Indiana. Toutes les grandes histoires d'amour et toutes les importantes transactions d'affaires ont commencé ainsi, explique-t-il.
Ah.
La clé du bavardage réussi est d'apprendre à interagir avec autrui plutôt qu'à simplement communiquer. C'est pas pareil. Selon M. Carducci, la recherche de points communs aux moyens d'échange, même autour de sujets aussi négligeables que la météo ou encore la longueur de la file d'attente, permet de créer des liens.
Oui.
Les grandes, entre guillemets, conversations pleines de sens qui ont une influence sur notre vie sont essentielles à notre bonheur. Cependant, on aurait tort de sous-estimer les mérites du bavardage. Lors d'une étude menée en 2004, Elizabeth Dunn, professeur en psychologie à l'Université de la Colombie-Britannique, a sollicité la participation de personnes qui s'apprêtaient à entrer dans un café. Les sujets d'un premier groupe furent invités à provoquer une interaction avec le barista, et ceux du second groupe à se limiter à l'essentiel. Les résultats ont révélé que ceux qui avaient échangé brièvement avec le garçon avaient éprouvé nettement plus d'émotions positives, sans compter que leur visite fut beaucoup plus agréable. « Discuter avec le barista n'est pas mieux qu'une discussion avec votre conjoint », affirme Mme Dunn, « mais le fait d'interagir avec un plus grand nombre de membres secondaires d'un réseau social contribue aussi à notre bien-être. » Les observations d'Elizabeth Dunn ajoutent du poids aux recherches menées en 2013 par Andrew Steptoe, du University College de Londres. Ces travaux ont démontré que les personnes âgées qui souffraient d'isolement présentaient un taux de mortalité plus élevé que celles qui fréquentaient régulièrement soit l'église, soit des clubs sociaux ou des parents et des amis. Selon Elizabeth Dunn, les individus qui entrent en contact avec des inconnus éprouvent un sentiment d'appartenance beaucoup plus grand. Bernardo Caducci estime aussi que c'est un bon point de départ pour nourrir un sens de la communauté. Le bavardage est la pierre angulaire de la courtoisie, affirme-t-il. Lorsque vous entrez en contact par la conversation, vous êtes moins susceptible de froisser ou de souffrir d'un manque d'égard. Échanger des banalités est tout aussi essentiel au travail. S'exprimer avec aisance est l'un des plus importants facteurs de réussite professionnelle, affirme Roberto Carducci. Le bavardage est un exercice d'échauffement qui fournit à notre interlocuteur des renseignements clés à notre sujet, comme la bonne volonté, la fiabilité ou la coopération. Cela contribue à sceller des ententes, ajoute Deborah Fine, qui est conférencière et auteure du grand art de la petite conversation, des « small talks », comme disent les Anglais.
C'est cute.
Une lecture indispensable pour les gens d'affaires, ce livre de Madame Fine. Vous pouvez négocier un contrat, faire une présentation, vendre des applications mobiles ou promouvoir vos services, mais à moins d'avoir intégré le bavardage à vos démarches, vous ne développerez jamais d'amitié professionnelle, prévient-elle. Et toute chose égale d'ailleurs, les gens font affaire avec leurs amis, bien sûr. Un petit PS, l'art de converser au masculin et au féminin. Y a-t-il une différence?
Ah?
La différence. En affaires, les hommes qui font la conversation obtiennent de meilleurs résultats que leurs collègues féminines, selon un compte-rendu présenté au mois d'août 2014 à la réunion annuelle de l'Academy of Management de New York. On a des sujets très sérieux, non?
Très.
L'étude révèle que les comportements de sociabilité seraient plus profitables aux hommes qu'aux femmes, car comparativement à ces dernières, les hommes sont généralement considérés comme moins portés à communiquer, moins sociables, et moins attentif aux autres. Bon, alors, nous pouvons continuer, mais ce texte-là est terminé, mais je fais un petit PS ou je fais un petit raccord avec un autre article. Pour compléter le bavardage, c'est un texte de Amélie Brown qui est dans la Reader's Digest du mois de mars, ce texte-là, ça s'appelle « Les subtilités du pourboire ». Si vous avez bavardé avec un membre secondaire du réseau social, comme on dit, là, un barman, comme l'écrit Chantal Transmontagne, que devez-vous laisser un pourboire? Il est d'usage de laisser un pourboire aux serveurs et aux barman, car ils sont payés en deçà du salaire minimum dans la plupart des provinces canadiennes. En outre, ils doivent souvent partager les pourboires avec leurs collègues. Combien donner? Aujourd'hui, dans les restaurants d'Amérique du Nord, le pourboire minimum est de 15 à 20 de la note avant taxe. Dans les grandes villes, visez le haut de cette fourchette. Laissez de 15 à 20 chez le coiffeur ou dans un spa. Si plusieurs personnes se sont occupées de vous, demandez à ce que le pourboire soit partagé. Il est aussi d'usage de laisser la même part à un chauffeur de taxi. Dernier point, malgré la prolifération des boîtes à pourboire, vous savez, quand vous allez au comptoir, vous commandez un café.
Non? Ah oui, oui.
Il n'y a aucune obligation pour un service au comptoir. On joue sur votre culpabilité. Vous donnez pour imiter les autres, affirme Mme Blécomo. Le pourboire est inutile pour une commande à emporter, mais laissez 10 % si vous avez une livraison. Oui. Ah.
Alors, j'ai beaucoup aimé l'article sur le bavardage.
Ah, c'est vrai.
Oui, oui, oui. Dans les cafés Internet, ils devraient interdire le bavardage, d'ailleurs.
C'est ça. Mais ils n'ont pas besoin. Anonymous va s'en occuper.
Ils n'ont pas besoin de le faire. Il n'y en a pas de bavardage. C'est le silence total. Latte flattée. Hein? Le Dog Café. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le Dog Café.
Le Dog Café verra bientôt le jour à Los Angeles. On pourra y siroter un cappuccino tout en bavardant. Et tout en caressant l'un des 100 chiens du refuge, aménagé dans une pièce attenante. L'objectif est triple, permettre à la clientèle de s'amuser avec les toutous, aider les chiens à socialiser et, avec un peu de chance, leur trouver un foyer. Cute, hein? Mm. Les clients peuvent en effet quitter le café avec leur nouvel ami et bavarder.
Ah ben tiens!
Ouais, ben, oui.
Ben oui, c'est ça. Mais on peut aller en Chine faire une tentative de bavardage. On peut parler soccer en Chine. La Chine voit grand.
En chinois?
En Chine, oui. Le président de la Chine, Xi Jinping. Je ne sais pas si ma propre prononciation est bonne.
C'est excellent.
Oui, grand amateur de soccer et déterminé à faire de son pays un champion du ballon rond. Dès cette année, on évaluera les compétences en soccer de tous les élèves du primaire et du secondaire. Puis il y en a des élèves, là. Pas moins de 6 000 entraîneurs seront embauchés et 20 000 académies de soccer seront créées d'ici 2017 pour faire progresser les joueurs les plus prometteurs. En 2014, la Chine a failli ne pas se qualifier pour la Coupe d'Asie et elle n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis 12 ans. Le pays occupe la 96e place au classement mondial de la FIFA. Ces piètres résultats dans le sport le plus populaire de la planète représentent une véritable honte pour les dirigeants chinois. Avec son plan, Xi Jinping vise les premières places au classement mondial et l'organisation d'une future Coupe du Monde, mais la marche est haute, car en Chine, le soccer suscite beaucoup moins d'intérêt que le ping-pong ou la gymnastique.
Et pourtant, ce sont eux probablement qui fabriquent les ballons.
Ah,
made in China.
Il y a de fortes chances que ce soit. Une dernière brève?
Ben, on va marcher dans le ciel. Le jardin botanique Kirstenbosch en Afrique du Sud offre à ses visiteurs la possibilité de marcher au-dessus des arbres. Littéralement, une passerelle de 130 mètres de longueur a été installée à 12 mètres du sol. Elle serpente tantôt au-dessus des couverts forestiers, tantôt au cœur des branches. Et le but est de permettre aux humains de voir la forêt comme la voient les oiseaux et les singes.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, nous sommes dans la revue itinéraire, changement climatique, l'urgence de tout repenser, mais nous ne parlerons pas de ça. Nous allons parler d'une entrevue qui a eu lieu avec Vincent de Gaulle-Jacques. Le monde tourne à l'envers, ce système qui rend fou. Ça a été écrit par Nafi Alibert. Vincent de Gaulle-Jacques est professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot. Depuis 40 ans, il analyse la drôle de relation qui unit l'homme à son travail. Un ménage à trois dans lequel se sont immiscés les gestionnaires, ces créatures engendrées par nos sociétés capitalistes qui, mondialisation oblige, ont universalisé la culture de l'excellence. Aujourd'hui, les travailleurs n'ont plus le droit à l'échec. Ils vénèrent la sacro-sainte performance au nom de laquelle il se courbe sous une pression de travail qui s'accroît à mesure que leur santé fléchit. Vincent de Gaulle-Jacques décrypte le fonctionnement de ses salariés martyrs, piégés dans une relation contradictoire d'amour-haine avec leur entreprise. L'itinéraire pose une question. Vous pointez du doigt ce que vous appelez le management capitaliste. De quoi s'agit-il? Et Vincent de Gaulle-Jacques de répondre. J'ai commencé à travailler en sociologie sur le pouvoir dans les multinationales. La première a été IBM. Dans les années 70, c'était le fleuron de la culture de haute performance, de la qualité totale, de l'avancement au mérite et des évaluations par les résultats. Chaque manager avait sur son bureau un manuel qu'ils appelaient « The Good Book », la Bible qui devait réconcilier l'homme avec le travail. Ils mettaient en place un nouveau modèle de gestion, le management capitaliste ou la gestion des ressources humaines. Il fallait à présent que les individus valorisent au maximum toute leur potentialité, tel un capital qui doit fructifier. Cantonné au début aux grandes firmes, cette forme de gestion inhumaine s'est propagée à l'ensemble de la société, dans les institutions jusqu'au cœur de l'État, dans les ministères et les administrations. Oh. Et l'itinéraire de reposer une autre question. C'est ce qui vous fait penser que l'on vit dans une société malade de la gestion? Point d'interrogation.
Oh, est-ce que ça se traite?
Et le monsieur Gauzac de répondre, en collaboration avec d'autres chercheurs, je m'attache à démontrer que cette course à l'excellence a un coût. On a découvert qu'il y avait un lien entre le développement d'une psychopathologie du travail qui produisait du stress, voire un sentiment de mal-être profond et l'introduction de ces nouvelles formes de gestion. On est sans doute parmi les premiers en Europe à avoir parlé du burn-out, de l'épuisement professionnel ou de la dépression qui produisait. Que produisait ce type de modèle jusqu'à cette fameuse vague des suicides de France Télécom qui a enfin mis le problème sur le devant de la scène? Mm-hmm. Question. Pourtant, en France comme ici, la fréquence des problèmes de santé au travail n'a cessé d'augmenter au point d'être devenue la première cause d'absence prolongée dans les entreprises. Pourquoi les travailleurs ne décrochent-ils pas? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ce « new management » favorise l'investissement psychique des individus dans le travail. Qui dit société numérique dit cellulaire et ordinateur portable. Mm-hmm. Les gens se sentent libres de travailler 24 heures sur 24.
Ma liberté.
En vacances, à la maison, ils peuvent continuer de travailler où ils veulent et quand ils veulent. C'est formidable, la liberté. Mais en même temps, c'est l'aliénation maximum. Jamais les marxistes purs et durs n'auraient pensé que l'exploitation puisse aller jusqu'à pousser le travailleur lui-même à revendiquer de pouvoir travailler 24 heures sur 24. C'est de la servitude volontaire. Ils savent que le travail les rend malades et en même temps, pour eux, arrêter de travailler, c'est comme si c'était la fin du monde. Et on dirait que vous parlez d'une drogue. Ben, c'est vrai que c'est une forme d'addiction. Pour arriver à avoir le même plaisir, les toxicomanes savent cela, il faut consommer toujours plus. Le travail, c'est pareil. Le workaholism, vous en avez entendu parler. Du moins, à partir du moment où on a ce rapport au travail qui va nous apporter la reconnaissance et la satisfaction d'avoir enfin la sensation de pouvoir exister dans la société... Nietzsche, vous connaissez Nietzsche, j'en avais entendu parler lors de vos bavardages. Nietzsche disait que le désir de reconnaissance était un désir d'esclave.
Il a dit ça?
Oui, Michel Richard. Ces gens deviennent esclaves par rapport à leur emploi, mais c'est eux qui l'ont choisi, ce ne sont pas des esclaves. Et jusqu'à quel point l'ont-ils choisi? Ils l'ont choisi parce que ça leur apporte une satisfaction narcissique. Et parce que toute la société nous dit, depuis qu'on est tout petit, qu'il faut être un bon élève, le meilleur de sa classe. Il faut avoir les meilleurs diplômes pour avoir les meilleurs emplois, pour être au top du top. On intériorise cette exigence de réussite et d'excellence qui doit passer par la performance. C'est ce que les psychologues appellent l'hallucination des désirs. Satisfaire son désir en faisant toujours plus et toujours mieux. Alors, pour être reconnu, il ne suffit plus de faire son boulot de manière satisfaisante, comme en témoignent les grilles d'évaluation de ces organisations qui tiennent en 5 lettres A, B, C, D et E. Et on doit être au-delà des attentes, B. Ah, c'est tout.
On va s'en va dans un domaine un peu plus concret maintenant. On va s'en va dans une cimenterie. Hein? Il y a deux chroniques qu'on peut lire dans l'actualité du 15 avril.
Les cimenteries?
Oui, une
ou
cimenterie.
Ou les sept menteries?
Non, non. Il y a une chronique de Pierre Fortin, l'illusion démographique, mais aussi un autre texte, celui-là de Pierre Duhamel, La cimenterie, j'ai changé d'idée. De quoi parle-t-on?
Que c'est ça?
Oui, mais la cimenterie de Port-Daniel, Gascon, en Gaspésie, est un projet industriel de grande ampleur qui, à première vue, aurait dû sembler un cadeau du ciel, un investissement de 1,2 milliard de dollars qui générera 400 emplois, directs et indirects, dans une région où le taux de chômage est plus du double de celui du Québec et que la collectivité appuie massivement. C'est aussi un projet porté par l'une des grandes familles entrepreneuriales du Québec, les Bombardiers Baudouin. Le cadeau du ciel avait cependant un bien curieux emballage. Ce projet, qui venait au monde grâce aux fonds publics, paraissait essentiellement politique. L'usine volerait des emplois à d'autres cimenteries, notamment celle du groupe Lafarge, dont la famille Desmarais est un important actionnaire, et elle serait la plus polluante du Québec. Le fait que les gouvernements tant péquistes que libéraux ont soustrait ce projet à l'examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, m'avait convaincu que ce chantier était une infamie politicienne et une bien mauvaise idée. Une étude minutieuse du dossier et les réponses précises de l'entreprise m'ont fait changer d'idée. Cimenterie donc, je change d'idée par Pierre Duhamel. Oui, l'affaire est ambitieuse. On crée à partir de zéro un cimentier qui rivalisera avec les multinationales qui dominent le marché. Nous les dérangeons beaucoup, m'explique Christian Gagnon, PDG de Ciment Mécanis, qui compte 37 années d'expérience dans l'industrie lourde. L'objectif est de percer le marché de l'Est américain, région qui ne produit pas suffisamment pour combler ses besoins. Les cimenteries déjà actives au Québec ne peuvent convoiter ce marché, leurs coûts de production et leurs frais de transport étant trop élevés. L'usine de Port-Daniel, qui produira 2,2 millions de tonnes de ciment par année, sera plus grosse que celle qui existe maintenant au Québec, dotée des plus récentes technologies et à proximité d'un gisement de calcaire très pur, idéal pour la production de ciment. Surtout, elle comptera un atout imparable. Le ciment sera transporté par bateau vers ses clients américains, ce qui sera beaucoup moins cher que par camion, en plus d'être moins polluant. Ciment Mécanis affirme que sa cimenterie aura la meilleure performance environnementale d'Amérique du Nord lorsqu'elle démarrera en 2017. Elle émettra 20 % moins de gaz à effet de serre par tonne de ciment produite que la moyenne de ses concurrentes. Pourquoi alors se soustraire à une consultation du BAP? L'entreprise précise qu'elle n'est pas tenue à une telle consultation puisque le projet a été présenté en mai 1995, un mois avant l'entrée en vigueur des règles d'examen du BAP. Les gouvernements qui se sont succédés à Québec depuis 20 ans l'ont reconnu. Sur cette prémisse, Ciment Mécanis a engagé des centaines de millions de dollars et achevé la moitié de la construction. Ces millions de dollars proviennent-ils de subventions de l'État? Réponse de Pierre Duhamel, non. Plutôt d'investissements et de prêts commerciaux accordés aux conditions normales du marché. Au dire de Christian Gagnon, de la compagnie Mécanis, cette réalisation entièrement québécoise deviendra la référence dans son secteur en Amérique du Nord. Il y aura l'époque d'avant Ciment Mécanis, rappelons que c'est à Port-Daniel, Gascon, en Gaspésie, et celle d'après Ciment Mécanis. Autre texte de nature économique. C'est la chronique de Pierre Fortin, l'illusion démographique. Jusqu'au début des années 90, le Japon a été la star de la croissance économique. Son produit intérieur brut, son PIB, progressait plus rapidement que celui de l'Amérique du Nord. Depuis lors, cependant, l'économie japonaise avance à pas de tortue. En 15 ans... Bon, salutations à ceux qui sont en studio... Ah oui, avec les salutations à la japonaise. En 15 ans, de 1999 à 2014, son PIB n'a augmenté cumulativement que de 14 % inflation déduite. C'est deux fois moins que le PIB américain qui a cru de 33 % pendant ce temps. La perception selon laquelle l'économie américaine a pris le dessus sur l'économie japonaise est très répandue dans la presse financière internationale, mais il y a un hic. C'est le point important. Soyons très attentifs. La croissance du PIB est une mauvaise mesure de la performance économique. Elle reflète l'évolution non seulement de l'économie, mais aussi de la démographie, car l'une des sources d'augmentation du PIB d'un pays est la croissance de sa population d'âge actif, soit principalement celle qui est âgée de 15 à 64 ans. Oui, c'est 15 à 64 ans, ma démonstration est un peu... Comment dirais-je? Plus nombreux, on peut produire plus de richesses. Moins nombreux, on en produit moins. C'est ce dernier problème de nature démographique qui ralentit le PIB du Japon. Sa population de 15 à 64 ans s'est mise à dégringoler depuis le milieu des années 90, une baisse de 9 millions de personnes, alors que celle des États-Unis a augmenté une hausse de 27 millions de personnes. Mais si on veut comparer la performance économique véritable des deux pays, il faut nettoyer leur PIB respectif de l'influence de la démographie négative au Japon et positive aux États-Unis. Le PIB ainsi épuré est le PIB par habitant de 15 à 64 ans, et ce dernier concept permet de mesurer uniquement la capacité des personnes de cette catégorie d'âge de créer de la richesse indépendamment de leur nombre. Or, selon le critère du PIB par habitant de 15 à 64 ans, aucun équivoque n'est possible. Depuis 15 ans, la performance japonaise a eu le dessus sur l'américaine. Et il fait une comparaison avec le Québec par rapport à l'Ontario. Et il en arrive à la même conclusion. Depuis 15 ans, le PIB a cru de 30 % au Québec et de 34 % en Ontario. Mais si on retranche l'effet pur de démographie et qu'on se concentre sur la croissance du PIB par habitant de 15 à 64 ans, le résultat s'inverse. De 99 à 2014, la performance économique calculée selon cet indicateur nettoyé a augmenté de 19 % au Québec et de 11 % en Ontario.
Bon, alors, c'est bon, ça.
Pierre Fortin, l'illusion démographique dans l'actualité du 15 avril.
Ah!
Il manquera souvent d'un ingrédient pour réussir la recette. On oubliera occasionnellement d'acheter du sel, du pain, du poivre, de la mélasse, de la vinaigrette. Il manquera souvent une personne au rendez-vous fort important. Et quand sonnera le téléphone, ce sera elle qui vous dira. Je m'excuse, là, je manque toujours un peu de temps. Il y a souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui... Il y a souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui cloche. S'agitent les hormones, il faut pas s'en faire un complexe. C'est sûr qu'au moindre souffle on frissonne. Ce n'est pas un manque de drogue ni d'alcool, c'est surtout un manque de... Si après plusieurs nuits d'aventure, des nuits de caresses et de velours, l'état de manque persiste et dure, alors c'est pas un manque de peau, de fesses frivoles, c'est surtout un manque d'amour. Y a souvent un petit manque, y a souvent un petit quelque chose qui... Souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui cloche. Quand on travaille pas, c'est bien connu, on dispose de beaucoup, beaucoup de temps. Pour s'amuser, courir les rues, on ne manque pas de soleil ni de liberté, non mais on manque souvent d'argent. Quand on s'est couché très tard la nuit, sans se soucier du réveil, c'est sûr qu'au lendemain, il y a quelqu'un qui dit à te voir les armes sous les yeux, c'est évident, tu manques un petit peu de sommeil. Il y a souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui... Il y a souvent un petit quelque chose qui cloche, qui cloche. Même avec désir et concentration, même avec les prières de la Bible, qu'on soit prophète ou grand champion, il y a souvent soudainement un petit coup de vent qui nous fait manquer la cible. Quand on détruit les essentiels pour les caprices de la finance, on crache du noir dans le bleu du ciel, on gueule avec une honteuse fierté notre manque de cohérence. Il y a souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui... Il y a souvent un petit manque, il y a souvent un petit quelque chose qui...
y a souvent un petit manque, y a souvent un petit quelque chose. Souvent un petit manque, un petit quelque chose. Cloche qui cloche. Et c'est pour ça, oui, qu'ici bas, la perfection n'existe pas.
Je suis dans la revue Urbania. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu
parler.
Oui, ben
c'est ça,
eh bien, c'est l'annuel 2014. Il est dépassé, mais il ne sera jamais dépassé de toute façon. Et ça s'appelle Anonymat et c'est fabriqué incognito.
Bon, ben, c'est Anonymous qui revient pour terminer.
Si vous voulez, oui, mmh, c'est ça. Ça, ouais. Et puis, on va parler d'un article qui se veut... En fait, tous les articles se veulent anonymes d'une certaine façon. Et c'est une infiltration en Syrie. Si on vous proposait un voyage gratuit en Syrie, en vous faisant promettre de le dire à personne, c'est là l'anonymat, pas même à votre mère, partiriez-vous? Alors... Notre collaborateur, alors étudiant et photographe avide de sensations fortes, a accepté sans hésiter de laisser tomber son identité pour aller passer Noël au pays de Bachar al-Assad. Texte et photo, Jules Gauthier. Nous sommes à la mi-décembre à Beyrouth, au Liban. Alors l'émission va finir, se terminer sur une belle histoire anonyme.
Anonyme, oui.
Paris m'attend bientôt pour le temps des fêtes et ayant quitté Montréal en août, j'y suis déjà depuis 5 mois pour mes études en sciences politiques lorsqu'une amie me fait part d'une nouvelle qui va bouleverser mes plans. Ne le dis à personne, pour le moment, mais un groupe de Français part en Syrie pour Noël, pour faire de l'humanitaire à Damas. Je connais l'organisateur et va le voir. Il savait bien que je faisais de la photo et que c'était mon grand désir depuis mon arrivée au Moyen-Orient de voir ce qui se tramait dans ce pays en guerre civile. Je rencontre le responsable de l'expédition, Olivier, début trentaine et organisateur événementiel parisien, ayant un bon réseau de contacts dans le milieu politique. Il est bien clair, la mission doit rester secrète. Avec les événements violents qui secouent la région en ce moment, il ne veut pas attirer l'attention de criminels ou de ravisseurs quelconques. Un groupe d'Occidentaux, ça vaut une sacrée rançon. Il reste donc 2 places seulement et le départ se fait dans 1 semaine, le 19 décembre. Mon bon pote Nico, lui aussi photographe, est de la partie tout de suite. Roche d'adrénaline, il n'en faut pas plus. Je décide sans trop réfléchir de changer mes billets pour Paris et rares sont les moments où je me suis senti aussi cheap après avoir appelé ma famille pour lui dire que finalement, je reste au Liban pour les vacances. J'ai un projet photo incroyable qui est en cours avec une journaliste américaine. La nuit avant le départ, je dors les yeux ouverts. La peur me gagne. Et si je mourais là-bas, qu'il saurait? Blessé ou mort, quand personne ne sait où je suis, j'aurai l'air fin. Malgré la présence de Nico, je stresse au max. Ne sachant pas dans quelle aventure rocambolesque, je me jette de façon aussi irréfléchie. Arrivera-t-il une malchance dans cet enfer qu'est la Syrie depuis 3 ans déjà? Qui exactement va s'occuper de nous là-bas? Quel pantalon j'apporte? Alors, je vous dois dire aux auditeurs de déstresser un peu, parce que si cet article a été écrit par Jules Gauthier, c'est qu'il en est revenu.
Oui, mais
oui, oui,
oui.
J'y avais
pas pensé.
Quand même. Hein? En route vers l'inconnu avec des cathos. Dans le bus en direction de la frontière syrienne, je pensais aux obus, moi, c'est ça. Je rencontre mes compagnons de voyage, un groupe assez hétéroclite, pour le moins surprenant, d'une 15aine de personnes, dont un conseiller ministériel, des lobbyistes, de jeunes membres du Front national, des étudiants, une jeune journaliste parisienne, un vieux docteur et un boulanger. Leur point en commun, ils embrassent tous le catholicisme et certaines valeurs de droite. Tabarnak est le mot qui me passe par la tête à ce moment-là. Un hommage aux catholiques, sans doute. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je vais pouvoir rentrer dans une Syrie en pleine guerre civile avec mon petit passeport canadien? On ne rentre pas là-dedans comme dans un moulin, c'est clair. Olivier me rassure tout de suite, il n'y aura pas de problème pour passer parce que le régime syrien a octroyé au groupe des visas exclusifs. On est des VIP. Merveilleux. On nous attend de l'autre côté de la frontière. On y arrive justement à la frontière syro-libanaise, des réfugiés partout, un flot d'auto et de camions remplis de ce qui reste de leur vie antérieure. Des douaniers libanais hilares se foutent de nos gueules et se demandent ce que vont faire une quinzaine d'Occidentaux chez les Assad, alors que le touriste lambda se fait relativement rare chez le turbulent voisin ces temps-ci. Je me poserais la même question si j'étais eux. Par la route, s'engouffrant entre les montagnes qui séparent les deux pays, on rentre enfin dans cette Syrie dont tout le monde parle, mais où personne ne veut aller. Je me sens tout d'un coup complètement coupé du monde. Personne ne sait que je suis là. J'ai une pensée pour ma famille. On roule en mode furtif jusqu'au poste frontalier syrien, et là, c'est le grand jeu. Notre hôte syrienne, Allah, nous réserve un accueil chaleureux. Une femme d'affaires chrétienne, elle s'appelle Allah.
Allah, hein?
Mais pas Allah, Allah. Allah avec un H, H-A-L-A.
Ah.
Oui, oui. Alors, la télé nous collera au derrière tout le long du périple, histoire de faire un peu de propagande pour le régime. Ah. Bref, il ne me reste pas beaucoup de temps. Hein? Alors, une demi-seconde. Alors, il est revenu. Mais, mon Dieu Seigneur, il se promène dans les rues, c'est la journée avant son retour. Comme on est d'un naturel chanceux, sans prévenir, une panne de courant généralisée s'étend sur Damas, il marche dans les rues. Hein. On ne voit plus rien du tout dans la ville, rien, pas le choix, on commence à longer les murs à tâtons, quand tout à coup, bling, je m'enfarge dans un piège anti-char, en métal, disposé dans la rue. Subtil, presque aussitôt, des lumières m'aveuglent et j'entends des cris en arabe. Mon Dieu, des soldats! Encore ici, j'ai une petite pensée pour ma mère. Va-t-il en sortir? Oui! Après une dernière nuit à l'hôtel, avec la pluie de mortier sur les insurgés en guise de soundtrack, on repart comme on est arrivé, comme des fantômes. On refait la route en sens inverse. Ma parenthèse syrienne se referme, ni vue, ni connue. Fin de l'histoire.
Oh.
Et fin des émissions.
Les lumières s'éteignirent.
Oh oui.
Des courts textes maintenant, des courts topos. Bosser comme un grec, dans quel pays d'Europe travaille-t-on le plus fort? Selon les Anglais, les Espagnols et les Français, c'est en Allemagne.
Ah, bon, oui.
Selon les Allemands, c'est en Allemagne qu'on travaille le plus fort.
Très bien.
Selon les Italiens, les Polonais et les Tchèques, c'est en Allemagne qu'on travaille le plus fort. Mais quand on pose la question aux Grecs, la réponse, c'est en Grèce qu'on travaille le plus fort.
Oh là 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 là. À propos de l'arbre, OK? Ah, des petites pensées comme ça. La Haute-Ceux. Vous connaissez la Haute-Ceux?
La quoi? La Haute-Ceux, oui.
Alors, le plus grand arbre est né d'une graine menue.
C'est pas Confucius qui a dit ça?
Saint Matthieu, lui. Saint Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? On use l'arbre à ses
fruits.
Oui, et je termine par ce proverbe africain. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit.
Qu'est-ce qui pousse?
Quand la forêt pousse,
pas un
bruit.
Bon. Alors, je vais vous dire quelque chose de très, très important ici que j'ai lu dans l'actualité. Un pipeline de houblon. Une brasserie de Bruges en Belgique utilisera bientôt des pipelines souterrains pour transporter la bière de sa fabrique artisanale en plein cœur de la ville médiévale à son site d'embouteillage, 3 kilomètres plus loin. Cela diminuera de 85 % la circulation des poids lourds chargés de bière dans les étroites rues pavées du quartier historique.
Oui,
C'est quelque chose.
Hein? Avez-vous fini, vous?
Qu'est-ce qu'on lutte contre la pollution? Ben, j'en ai une autre, si vous voulez.
Moi aussi?
Oui.
Ben oui, pour sauver un arbre, manger un castor. C'est Henri Pradès qui a dit ça. Elle est bonne.
Oui.
Ah, elle est bonne. Je ne le savais pas. Ben là, est-ce que là, c'est encore une minute. Ben alors, ben qui là, veut le fruit doit grimper à l'arbre.
Ben, on préfère le 9, pour ma part. Les consommateurs achètent plus volontiers un produit si un prix de vente se termine par le chiffre 9, révèle une étude menée aux États-Unis. Les chercheurs ont remis à des femmes un catalogue comportant de tels prix et un autre dont les prix, moins élevés, finissaient par 4.
Ah oui.
Résultat, les femmes ont acheté 40 % plus d'articles dans le premier cas. Le 9, c'est important.
Oui, 11,99.
C'était le Kiosque Magazine de ce 20 avril. Ici Serge Hamelin et Roger Roy, de même que Jean-Sébastien Lamberté.
Oui.
En régie, nous vous disons...
Au revoir et bonne semaine.
À la prochaine.
Bye.